Nous sommes mercredi 19 novembre 2025 et vous écoutez le Dojo Bar.
Ah bon.
Bonsoir à tous, bonsoir Mecton.
Salut.
Bonsoir Antix.
Bonsoir.
Et bonsoir Renard.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Salut.
Nous avons une équipe. On a connu des émissions bien plus vite que ça. C'est quand même assez extraordinaire. On a un programme un petit peu chargé ce soir. On va parler de Zelda Tapé 3. C'était le terme officiel de Mecton. Zelda Tapé. On va parler des ennemis dans les jeux vidéo. Les ennemis, ça sert à quoi? On va se poser la question parce qu'on a eu un magnifique contre-exemple il y a peu de temps qui nous a. Enfin, en tout cas, qui m'a marqué et qui fait que. Mais on va commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actualité. Je vais donner d'abord la parole à Monsieur Zergy, qui a une bien triste nouvelle à nous annoncer.
Une petite nouvelle, voilà. Depuis 2011, je crois que c'est en 2011 que ça a commencé, il était possible d'emprunter une 3DS pour servir de guide audio pour le Louvre, et ça s'est terminé début septembre. Voilà, c'est juste une petite nouvelle. Alors ça prouve bien que la France est un pays de N-sex, hein.
Il fallait encore une preuve.
Alors pour le coup, pour avoir travaillé sur les audio guides, les deals, ce genre de deal avec les musées, ça dure longtemps.
Oui, je suis pas très étonné du temps que ça ait mis. Par contre, alors il faut savoir que officiellement, ces 3DS ne sont pas la propriété du Louvre, mais la propriété de Nintendo.
Ouais, c'est une location.
C'est ça. Donc normalement, elles ne devraient pas être en circulation sur eBay à des prix indécents.
Enfin, après, c'est des 3DS qui sont un peu spécifiques, parce que du coup, tu ne peux que
t'en
servir dans
jouer.
Le Louvre pour opérer. J'ai vraiment bossé dessus, pour le coup. Hein. Quand je dis que j'ai bossé dessus, j'ai bossé sur ces audio-guides-là. Hein.
Ah oui.
Quand j'étais stagiaire au Louvre, il y a moultes années. Et pour info d'ailleurs, il y avait un logiciel qui avait été sorti sur 3DS, il y a mon nom dedans. Voilà, donc j'ai mon nom dans un logiciel Nintendo, c'est le seul. Wow.
Voilà, étonnamment c'était un audio guide donc.
Voilà.
Mais comme tu étais stagiaire, tu n'as rien touché.
Non.
T'as pas de royalties.
Enfin si, j'étais payé par le Louvre.
C'est ça. Un quart de SMIC, et encore.
Mais du coup, c'était quand même... Alors moi, je peux parler un petit peu du projet, parce que je pense que maintenant, c'est un peu loin. C'est quand même, mine de rien, un truc où Miyamoto et Iwata, parce que c'était eux à l'époque, ont participé à la promotion de l'audio guide, parce qu'ils ont fait une vidéo dans le Louvre, qui remonte à il y a quelques années, je sais pas si vous en souvenez. Et dessus, notamment, il y avait toute l'équipe, une partie de l'équipe des traductions de Nintendo Europe, notamment des gens qui ont bossé sur les traductions de Pokémon, plus je sais plus si c'est le producteur ou le réalisateur de Super Mario Sunshine.
Ah, ça fait quand même du beau monde, enfin ça fait plaisir, tu vois.
C'est pas forcément un grand nom, tu vois, mais c'est quand même, il y avait des gens de la boîte qui étaient investis dedans, pour le coup ils ont vraiment passé du temps dessus, c'était assez, comment dire, c'est assez intéressant, quoi, ils prenaient vraiment le projet à cœur.
Bon, en tout cas, c'est intéressant. Merci pour ces précisions. On n'avait jamais eu. Je pensais qu'on a une star du Louvre avec nous depuis le début.
C'était il y a 12 ans. Hein.
Oui, mais quand même. Je vais passer la parole à Mecton qui va nous faire un très léger retour sur Kirby Air Riders. J'ai beaucoup aimé le résumé par écrit que
oui,
tu as fait. Je sais pas si tu vas faire le même à l'oral.
Je vais faire le même. Sakurai n'a pas menti. Hein. Quand on appuie à gauche, ça va à gauche. Quand on appuie à droite, ça va à droite.
Putain, ouais, du coup, le deuxième bouton, il sert vraiment à quelque chose?
Alors,
ça,
deuxième
ça complexifie
bouton,
vachement
ouais.
le gameplay. Hein.
Non, mais blague à part, oui, ça ne plaira pas à tout le monde. C'est un jeu de freinage et de trajectoire. Par contre, c'est hyper plaisant une fois qu'on est dedans. Ça tourne du feu de Dieu. Et bah, c'est la formule Sakurai. Quoi. Très simple à prendre en main. On sent tout de suite qu'il y a une profondeur dingue derrière. Même si sur le playtest donc, était... le week-end dernier et le week-end d'avant, toutes les courses se faisaient contre des bots et il n'y a que le City Trial qui était contre des humains. Quoi.
Et c'était un vrai bordel d'ailleurs.
Et le City Trial, voilà, c'est pas là où
c'est
on
à,
voit
c'est
le,
16,
la profondeur du truc. Quoi.
C'est
oui,
assez,
c'est un gros bordel. C'était un gros bordel.
C'était un gros bordel qui fait bien plaisir en tout cas.
Alors pour le coup, je trouvais que le City Trial, c'était vraiment le mode phare de la version GameCube et celui où c'était le plus intéressant. Au contraire, les courses
Alors,
n'étaient pas exceptionnelles. Je ne sais pas si ça s'est amélioré dans cette version.
Si, en fait, elles sont très. Si t'es client du côté arcade de jeux de course, tu sais, où il y a forcément un truc qui pète dans le décor, une petite animation, quelque chose qui te gicle le visage. Vice, putain, il était beau celui-là.
Il partait de loin. Donald Trump, si tu nous écoutes.
C'est pile poil le genre de jeu de course qu'il te faut si t'es client de ce genre d'expérience, quoi.
Okay. Bah, j'avoue que moi, il me chauffe plus que Mario Kart World. Mais j'aime beaucoup Kirby Air Ride GameCube.
C'est très différent. C'est pas très différent.
D'ailleurs, le mode City Trail, il y en avait une version. Enfin, il y avait une version cousine sur Smash Bros 3DS. Si mes souvenirs sont bons.
Ah, je me rappelle pas de ça.
Si, si,
si,
c'est.
C'était le mode solo. C'était, je sais plus comment il s'appelait.
Ouais,
en
et.
Gros,
c'était une espèce de carte Metroidvania. Enfin, pas vraiment Metroidvania,
ah
mais bref. Tu te baladais
T'as
dedans
raison.
et tu faisais comme le City Trail, mais tu jouais à Smash, quoi. Voilà,
C'était
tu récupérais des trucs.
vraiment la même façon de jouer où t'avais une grande zone, des secrets, et à la fin, t'accumulais des bonus, et à la fin, t'avais une épreuve avec tous les autres participants pour savoir qui est le plus balèze, quoi.
Voilà. Et d'ailleurs, c'était les mêmes icônes. Enfin, il y a certaines icônes qui reviennent de City Trial.
Ok.
Je répondais à JBC, oui, il n'y avait que 3 courses dispo sur ce test. Non, évidemment, dans la version finale que j'ai pu taper ce soir, il y en a plus. Y en a plus.
Sachant qu'il y a toutes les versions de la version GameCube. Il y a
ouais,
tous
sont,
les maps de la
ils
version
sont retapés
GameCube.
Dedans.
Ah, donc si tu connais bien la version GameCube, tu vas être comme à la maison, quoi.
Pas vraiment, il y a quelques changements de ce que j'ai lu, mais.
Les cartes. Autant sur Mario Kart, tu changes de carte, bon, il y a quelques différences, mais c'est infime. Là, par contre, ouais, tu changes de bolide, donc, comme ils appellent ça, avec des vraies grosses différences de gameplay tout de suite.
Ok.
Bon, c'est déjà le cas sur GameCube. Hein.
Je pense qu'on en parlera dans 2 semaines, de toute façon, de ce Kirby Air Riders, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait parler aussi de l'original, d'ailleurs.
Je vais pas faire beaucoup plus long.
Voilà. Renard, puisque tu es loquace. Tu vas nous parler de la Steam Machine, parce que c'est vrai que ça a un peu fait l'actu ces
Alors,
derniers jours. Steam Machine et notamment le casque VR, parce qu'en fait, ton actu, c'est l'actu dans l'actu dans l'actu.
Oui. Donc, il y a eu Steam qui a sorti 3 nouveaux hardware. Le Duke de la Xbox originelle, qui revient, mais avec des touchpads.
T'abuses.
Je suis désolé, c'est un Duke.
Alors, c'est surtout que par rapport au Steam Controller premier du nom, je trouve que. Alors, effectivement, c'est pour mimer le Steam Deck, finalement, avec les deux pads carrés, mais.
Ouais.
J'ai du mal à m'y faire. Voilà, je vois le truc, j'ai pas du tout envie d'aller mettre mes mains dessus.
Ouais, c'est. Après, je vois l'intérêt, mais. Ouais, moi aussi, ça me donne pas envie. Mais donc ça c'est le contrôleur. Ensuite il y a la Steam Machine, aussi appelée la GameCube, évidemment, ça elle vient pas de moi, qui est un ordinateur, c'est un ordinateur sous le Linux de Steam, et puis voilà, on peut juste l'acheter, le brancher, et ça fonctionne comme une console, mais c'est aussi un ordi, donc si vous voulez utiliser Godot...
C'est un Steam Deck qui ne bouge pas, voilà, c'est tout.
C'est ça.
Et en plus puissant, quand même.
Et de ce que j'ai cru comprendre, il n'y aurait pas particulièrement de limitation. C'est-à-dire que tu as envie d'acheter une Steam Machine et puis d'installer ce que tu veux dessus, bah, tu installes ce que tu veux dessus, y a pas, c'est pas verrouillé ni rien.
Avec... Oui, c'est pas verrouillé. Tu veux, c'est vraiment ton ordi, tu en fais ce que tu veux, quoi. C'est juste que ça vient avec SteamOS. Et tu peux le régler pour que ça soit juste une console ou que ça soit un ordi classique. Tu peux pas vraiment l'améliorer beaucoup. Tu peux juste améliorer la mémoire et la RAM, mais on sait pas le prix, donc à voir.
Vu les prix de la mémoire actuellement,
Ouais, oui, c'est sans doute pour ça qu'ils se retiennent de dire les prix. Et aussi, j'ai vu du coup cette Steam Machine ouverte et c'est 50% de radiateur en fait.
Ah oui, parce que c'est un énorme ventirad au-dessus d'un APU AMD, a priori.
Oui, voilà.
Donc, effectivement...
C'est juste ça.
Ah, c'est un APU.
Comme en fait, comme la finalement, comme la PS5, comme la Xbox Series, comme la Xbox One originale, comme la PS4. Aujourd'hui, grosso modo, le AMD Nvidia qu'on a côté console, c'est Nintendo contre le reste du monde. Hein. C'est-à-dire que c'est AMD qui a fait une grosse radia là-dessus, puisque en fait, ils te vendent des processeurs relativement puissants avec beaucoup de cœurs disponibles, et en plus avec un GPU AMD intégré pour un prix pas cher entre guillemets, puisque tout est intégré dedans, donc c'est un peu moins cher à fondre.
Okay.
Je précise que les petits nukes ou les petits parce que ça c'est aussi à la mode, les petits PC, tu sais, format Intel Nuke, les tout petits petits PC là,
oui, genre des Zotac, des trucs, oui,
c'est ça, les tout petits machins.
Non, par contre, c'est de la merde. Zotac, c'est une vraie grosse carte,
c'est une vraie grosse carte, ouais. Là c'est vraiment les espèces de mini PC que tu peux brancher sur ta télé pour faire de l'émulation, ou même pour jouer sur PC. Tu peux faire une petite Steam machine déjà avec ça. C'est aussi des APU AMD, parce que tu commences à avoir des cartes graphiques suffisamment costauds pour faire tourner des jeux d'il y a 4-5 ans sans trop de problèmes à 60 images par seconde avec une résolution raisonnable. Alors, bref, excuse-moi Renard, je te laisse continuer.
Bon, de toute manière, je vais juste conclure sur la Steam Machine pour passer au casque VR en disant que c'est quasiment les mêmes proportions qu'une GameCube, effectivement. Elle est juste légèrement plus haute, donc c'est vraiment...
C'est une GameCube avec le Game Boy Player.
Exactement. À juste quelques millimètres près, c'est une GameCube avec un Game Boy Player. Donc ça, c'est pour les deux hardware qui m'intéressaient pas beaucoup. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est le casque VR. Parce que c'est un casque VR standalone, ça veut dire qu'il peut être joué sans être branché à un ordinateur. Et ces types de casque VR, en fait, ce sont pas des PC, ce sont des téléphones. Ils utilisent un processeur ARM, qui est donc dans les téléphones, et qui est pas la même chose qu'un PC. Mais tu peux quand même jouer à tes jeux PC sur le casque VR, parce que Valve a beaucoup investi dans un projet open source, le projet FEX, F-E-X, qui en fait sert de traduction entre les programmes x86, les programmes de processeurs donc d'ordinateur, et qui traduit ça pour des processeurs ARM, donc des processeurs de téléphone. Et donc ça peut ouvrir beaucoup de choses. Et voilà, et donc c'est très intéressant.
Oui, alors
enfin une annonce tech où il n'y a pas d'IA.
Et merci. Pas d'IA, pas une seule.
Tout à fait. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, alors tu parlais du projet FEX, mais effectivement ils ont beaucoup investi dans Proton, qui était donc le logiciel open source, qui est la couche d'émulation qui fait la traduction de des couches DirectX. Enfin, des API graphiques, précisément DirectX, OpenGL et tout ça, vers du Vulkan, donc l'API graphique qui est sorti d'abord sous Linux, mais qui est disponible partout et qui est surtout bien plus efficace pour le faire. Et en fait, cette couche de traduction est tellement efficace qu'on a aujourd'hui sous Linux des jeux qui sont plus performants que sous Windows pour la même machine. Ça commence à puer un peu du cul pour un certain Microsoft aussi, ça. Mais enfin, bon.
Comme
c'est curieux,
comme
de
le
ROG
XLI. Qui fonctionne mieux sous Linux qu'avec le truc Xbox.
Oui. Donc, mais
je serais assez curieux. Non, je serais assez curieux de voir dans le pipeline où c'est que ça tourne ce truc. Si c'est de la tradoche dans le pipeline ou si t'as une précompile qui doit tourner quelque part.
Non, t'as une précompile.
Ok.
T'as une précompile. Mais je le fais tourner. Chaque fois que je lance un jeu Steam sous Linux, t'as les shaders qui sont précompilés, par exemple, pour justement être plus efficace. Mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des choses intéressantes qui se font. Je précise qu'il y a un autre projet open source dans ce genre-là qui s'appelle Rosetta, qui fait de la traduction x86 vers RISC-V, et qui va falloir surveiller aussi, parce que c'est le genre de projet qui pourrait à un moment amener à avoir un Steam sur des machines RISC-V, donc des machines vraiment pas chères, et avec des processeurs qui sont vraiment extrêmement performants par rapport à ce que sait faire Intel. Donc je pense que sur PC, ça va aussi beaucoup bouger dans les prochains mois. Alors peut-être que ça fera rien du tout, mais voilà.
Ça va quand même changer 2-3 trucs. Mais du coup, c'est quoi les risques 5?
C'est des processeurs qui sont 100% open hardware, c'est-à-dire tout est ouvert, n'importe qui peut fabriquer un processeur risque 5, tu peux en faire un dans ton garage si tu veux, alors que les processeurs Intel sont sous licence. D'ailleurs, Si AMD peut fabriquer des processeurs compatibles Intel, c'est en fait à cause d'une, en gros, une espèce de quiproquo à la fin des années 80 qui fait que Intel a licencié ses processeurs AMD et ils ont pas fait gaffe à la, il y avait pas de date d'expiration sur le truc, genre. C'est voilà. J'ai plus l'histoire exacte, mais c'est un truc assez ahurissant. Je vous retrouverai ça si vous voulez pour une prochaine fois. C'est quand même très 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 marrant. Bref, je vais enchaîner sur les Game Awards. Oh oui.
Oh oui.
Notre période préférée de l'année. Sortez les Doritos.
Voilà, c'est un peu ça. Il y a deux trois trucs un petit peu notables. Il n'y a que Donkey Kong Bananza qui est en lice pour le jeu de l'année. Voilà, c'est le seul titre Nintendo qui est en lice pour la catégorie reine qui est le jeu de l'année.
Ouais, comme d'hab, en fait, tous les ans, il n'y en a qu'un seul. Hein.
Tous les ans, en général, il n'y en a qu'un seul, sauf dans la catégorie des jeux Nintendo, la catégorie famille, où là, il y en a deux. Il y a Donkey Kong Bananza et Mario Kart World. Vous remarquerez que les deux grosses sorties de la Switch 2 sont là. C'est pas très, très étonnant. En revanche, il y a d'autres trucs un peu plus étonnants. Alors, un truc pas très étonnant, c'est que Clair Obscur a été nominé dans énormément de catégories. Il est quasiment dans toutes les catégories.
Même dans des catégories, il devrait pas être, hein, parce que c'est pas un jeu indépendant.
Oui.
Alors, il a un éditeur.
Il a un éditeur, mais il a été fait dans des conditions un peu particulières.
Bah, il a été fait dans des conditions de budget plus bas que ce que fait un gros éditeur. C'est pas un jeu indépendant.
On est d'accord. Voilà, donc il est vraiment
avec
dans
tout l'amour que j'ai pour le jeu, parce qu'il est excellent.
Ça, je ne me permets pas de juger, j'y ai pas joué. Mais voilà, il y a eu des trucs un peu étonnants. Voilà, il est vraiment nominé un peu partout. À mon avis, il a de bonnes chances de remporter au moins le prix du public. Ce serait très étonnant que ce soit pas le cas.
Je pense qu'il aura le jeu de l'année. Hein. Les autres jeux de la liste, et même si je porte Hades 2 dans mon cœur, comme vous le savez, je crois pas trop qu'ils vont passer au-dessus.
Pour moi, il y a que Hades 2 et Silksong qui peuvent peut-être le prendre.
Silksong, quand même, ouais.
Et j'y crois pas tellement, Silksong. J'y ai joué. Il est excellent, mais à la fin, ça te brûle un peu. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il passe. Enfin, qu'il ne passe pas. Bref.
Tout à fait. Et du coup, Antix, pour le petit gag du Game Award.
Ouais, j'avais deux gags, parce que bon, Death Stranding 2 on the beach, il est là, okay. Parce que Kojima, c'est le pote... C'est le pote à Jeff Keighley. Il y a eu un petit truc assez rigolo. Megabonk. On en a pas trop parlé ici, je pense que c'est un jeu qui n'est sorti que sur PC. C'est une espèce de roguelike façon Vampire Survivor. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, Vampire Survivor, c'est une espèce d'idle game.
Le but, c'est d'être un idle game.
Enfin, en gros, le but, c'est une espèce de parodie de Castlevania où tu joues un chasseur de vampires et la mécanique de jeu fait qu'en fait, tu deviens de plus en plus pété au point que globalement, tout ce qui est dans un rayon de 200 pixels autour de ton personnage, c'est la mort. C'est à peu près ça le but du jeu, vous allez voir, c'est très drôle. Moi, je trouve qu'on s'amuse très bien 5 heures sur le jeu. Bref, il a fait un jeu, donc il y a un jeu qui s'appelle Megabon, qui a été fait par un solo dev, dont je vais retrouver le nom immédiatement parce que j'ai sur mon autre onglet qui s'appelle Vedinad, pardon. Qui a été nominé comme Best Debut Indie Game. Et en fait, il y a eu un message du monsieur sur Twitter que je vais vous lire. Donc, je me casse des Game Awards, nique ta mère Jeff Keighley, non, ça c'est en trop. C'était un honneur et un rêve pour Megabong d'être nominé aux Game Awards. Alors, ça c'est la partie, je pense, un peu sympa. Mais malheureusement, je ne pense pas que je suis qualifié pour être dans la catégorie meilleur premier jeu indé. J'ai déjà fait des jeux sous différents noms de studio par le passé, donc Megabank n'est pas mon premier jeu. J'apprécie vraiment la nomination, le support et les votes, mais je trouve que ce n'est pas normal pour moi d'être dans cette catégorie. Vous devriez voter pour un autre jeu magnifique qui a débuté cette année. Voilà, donc si vous pouvez résumer l'histoire, c'est que, encore une preuve du grand sérieux avec lesquels les catégories de ce show sont faites. Je rappelle que l'année de la sortie de Triangle Strategy, donc il y a stratégie dans le nom, hein, Triangle Strategy n'était pas dans la catégorie meilleur jeu stratégique. Voilà.
Oui, c'est pas mal.
Alors, je m'en suis toujours pas remis en 3 ans. Hein.
Je vais me permettre une autre petite pirouette rigolote. Donc dans la catégorie des jeux de combat, est nominé Mortal Kombat Collection, alors qu'il sort dans 2 semaines.
Il n'est pas déjà sorti ?
A priori, non.
Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait déjà des retours dessus qui n'étaient pas vraiment positifs. Enfin, il se fait déjà rembourser chez Sony.
Ouais, non, mais d'accord. Enfin, ou alors il est sorti il y a une semaine, tu vois, mais c'est un peu ridicule quand même. bref.
Après, dans la catégorie jeux de combat, t'as deux compilations de jeux de combat des années 90. Hein.
La catégorie jeux de combat,
elle est très bien, la collection Capcom, hein. J'adore les jeux qu'il y a dedans, mais ça mérite pas d'être considéré comme une sortie annuelle. Hein.
C'est un peu compliqué.
Mais bon, Venidad, joli voilà. Move, la classe.
Très grand respect.
Voilà. On va s'écouter un tout petit morceau de la bande originale de Hyrule Warriors 3, que j'appellerais Hyrule Warriors 3 parce que Hyrule Warriors Edge of Imprisonment ou Hyrule Warriors les Chroniques
du Sol, c'est bon, on est
c'est
d'accord.
Chiant. Hyrule Warriors 3, ça ira très bien.
Alors que tu pourrais l'appeler Zelda Musso. Encore.
Zelda Musso, Zelda 3 tapé.
Zelda Musso, le sel de mes ennemis.
Bref. On va pas y arriver. Donc, un petit morceau de la bande originale de ce jeu. C'est composé par la petite compagnie Monaka, qui avait aussi travaillé sur le 2, si je me rappelle bien. C'est dirigé par un monsieur qui s'appelle Daichi Sugaya. Il y a plein de gens derrière, je ne les citerai pas tous, il y a au moins une vingtaine de noms derrière cette BO.
Monaka, c'est la compagnie de qui a fait les musiques de Nier Automata.
Oui. Tout à fait.
Donc, je n'ai plus le Koichi Okabe, voilà.
C'est extrêmement très très inspiré de Tears of the Kingdom, évidemment. Voilà, il y a quelques morceaux près, j'ai essayé de vous trouver des trucs qui étaient inspirés, mais pas trop. On va dire ça comme ça. Voilà, donc le morceau s'appelle The Blood Moon Rises, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et on va donc parler d'un petit sujet jeu vidéo de manière générale. Hein. Les ennemis, ça sert à quoi?
Grande question.
Grande question.
Bah ça sert à rien. Voilà, c'est voilà. Sûr.
Alors en fait, justement, on a un bel exemple avec Hyrule Warriors. Il m'est arrivé une petite aventure rigolote ces derniers temps. J'ai joué donc à Soul Reaver 1 et 2. Vous pouvez retrouver le test sur le dojo et le haïku. Sur Soul Reaver 2, je suis très très fier de mes haïkus. Ça me fait très très plaisir, c'est très difficile à faire. Et je me suis retrouvé dans un truc où finalement les ennemis ne servaient absolument à rien. Et c'est assez choquant de se retrouver dans une situation où tu te dis, mais en fait les ennemis ne servent à rien. Et je me suis dit, mais finalement à quoi ça sert un ennemi dans un jeu vidéo? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a comme fonction? Qu'est-ce que c'est? Et la réponse n'est pas si simple que ça, en fait. On a un peu fait le tiroir et on a commencé à sortir deux, trois bricoles en se disant « Putain, mais en fait, à quoi ça sert ?» Et ça sert à plein de trucs. C'est pour ça que c'est dommage, Soul Reaver 1 et 2, que vous n'ayez pas été foutu de faire quelque chose d'intéressant avec. N'est-ce pas? Bref.
Soul Reaver 1, encore, ça va.
Non.
Quand il y en a deux, que ça pose des problèmes, c'est ça?
Non, même pas. Alors, ce que me disait Antix, c'est... un ennemi, c'est avant tout un obstacle, mais entre guillemets interactif. C'est comme un mur, mais qui se déplace ou qui te bloque, tu vois.
C'est un obstacle qui interagit dans les deux sens. Parce que tu peux interagir avec une porte, ça reste un obstacle. Mais la porte, elle t'interagit pas avec toi, sauf si c'est une fausse porte dont le but c'est de te casser la gueule.
Oui, dans ce cas-là, c'est plus une porte, c'est un ennemi.
Voilà, et un ennemi, ça interagit aussi avec toi. Généralement, dans le but de te blesser.
Ou de te tuer. Alors, pas toujours, parce qu'en fait... T'as effectivement des ennemis qui te bloquent. Alors, l'exemple type, c'est les zombies de Resident Evil. C'est-à-dire que leur fonction première, en fait, les ennemis dans Resident Evil, les zombies, ne servent grosso modo à rien. Mais ils sont sur ton passage. Donc, t'as quand même intérêt à t'en débarrasser pour être en sécurité. Mais globalement, ils ne servent pas à grand-chose, à part, c'est une petite remarque très juste de Monsieur Renard, à part à te faire perdre des munitions. Ce que je trouvais très drôle, c'est en fait l'objectif, c'est de meuler ton inventaire, quoi.
Voilà.
C'est ce que j'allais dire. C'est te vider tes balles. Mais de notre côté, des fois, t'as pas le choix parce que l'espace, il est restreint. Hein.
C'est ça. Mais les vrais gros joueurs de Resident Evil, les vrais pros, finalement, ne tuent que très très peu d'ennemis. Ils ne tuent que les ennemis qui sont obligatoires. qui grosso modo font avancer le jeu, quoi, mais c'est tout.
Et généralement, l'astuce avec les zombies dans les premiers Resident Evil, c'est de leur casser les jambes. Ils sont vachement moins dangereux après. Bah, en fait, ils rampent, ils sont toujours en vie, mais c'est plus facile de les esquiver.
Mais voilà, mais globalement, un ennemi, c'est avant tout un obstacle, et là, en l'occurrence, bah, le zombie de Resident Evil, il n'y a pas mieux comme obstacle, quoi. Il est lent, et il fait des dégâts s'il t'attrape très bien, mais enfin bon, pour qu'il t'attrape, il faut quand même qu'il soit un peu nombreux, ou que tu sois très mal démerdé, mais ils sont là vraiment pour te barrer la route plus qu'autre chose.
Sauf dans Resident Evil 6, le vilain petit canard. Ouais,
c'est pas les mêmes.
Voilà. Mais là, quand même, c'est quand même l'objectif de te vider les balles, mais le problème, c'est que dans Resident Evil 6, tu as une très bonne mêlée. Du coup, moi, quand j'ai joué à la démo, je donnais juste des coups de shotgun, en fait, dans les couilles. Voilà, c'était juste...
Donc tu vidais tes balles dans les couilles des zombies, d'accord.
Non, même pas les balles, je prenais juste le shotgun et je leur foutais dans la face. Et ça servait très bien. J'ai pas dépensé une seule balle sur les niveaux que je faisais. Et j'étais même pas en difficulté facile.
Renard, il s'est dit, je suis Chuck Norris, je mets mon gun où je veux et c'est souvent dans la tronche.
c'est bon. Bref.
Ouais. Après, c'était très fun.
Une autre petite remarque de Monsieur Renard, ça peut aussi servir à t'apprendre une mécanique. T'avais un exemple très précis là-dessus, sur Super Mario Bros.
Ah oui, oui, avec les Goombas. Parce que tu vois un Goomba, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais, etc. Tu vois, tu interagis avec lui, il te tue. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sauter. Bon, bah, je vais essayer de sauter dessus. Ah, ça le tue. Et plus loin, après, tu as le Koopa, du coup, qui est une tortue. Je saute dessus. Hein, bah, c'est maintenant une. Bah, il est rentré dans sa carapace, qu'est-ce que je peux faire? Je réinteragis avec lui, oh, je peux le balancer. Et plus tard, tu as un Koopa et plusieurs Goombas, et tu te dis, ah bah tiens, et si je sautais sur le Koopa pour ensuite lui donner un coup de pied et me débarrasser de tout le monde en un seul coup? Il y a aussi plus loin, t'as un Goomba et puis un autre Goomba, mais plus espacé, tu te rends compte que tu rebondis. Et en fait, petit à petit, ça t'apprend à comment est-ce que Mario bouge, comment est-ce que la physique, c'est pas vraiment un moteur physique, mais quand même, fonctionne. Et tu apprends à maîtriser le jeu, en fait.
Oui, alors effectivement, je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que t'apprendre une mécanique, c'est aussi un grand classique des trucs genre Zelda. On se rappelle tous dans typiquement Ocarina of Time, où t'as souvent des petits ennemis qui ont la même réaction que le boss. Je pense à la caverne Dodongo, où tu croises des Dodongo, tu leur tapes dessus avec ton épée, ça fait rien, mais tu leur balances une bombe, ça les tue. Ah. Et le gros Dodongo, bah, on ne peut le battre qu'avec des bombes. Donc l'idée des ennemis, c'est que finalement, ils peuvent t'apprendre un certain nombre de mécaniques de jeu. C'est-à-dire, genre l'ennemi est en feu, ah, il va peut-être falloir que tu utilises une attaque d'eau ou de glace ou machin comme ça. C'est souvent pour t'apprendre une petite mécanique autour de ça, ou qui va te servir derrière sur un autre obstacle. On a aussi le fait de pimenter un peu les choses. Alors ça, je crois que c'est Antique qui nous l'avait suggéré en disant, bah, c'est bien quand c'est un peu intéressant, tu vois, un ennemi, quand c'est pas juste un obstacle un peu bête, ça te bloque la route, mais quand ça rajoute un peu de piment, quand ça augmente un peu la difficulté.
Je veux dire, moi, alors à l'époque, quand j'avais parlé de ça, je pensais plutôt au design des ennemis dans les jeux d'arcade, dont le but c'était de te faire roter du sang pour que tu remettes des pièces dans la machine.
Bah, ça fait partie de l'augmentation de la difficulté, hein.
Oui, c'est ça. Dans le but, les premiers sont un peu simples, et puis après, ça va commencer à être compliqué. T'as mis en exemple les Souls-like, et je trouve que c'est un bon exemple, ouais. Parce que c'est des obstacles, mais qui sont placés dans le but, effectivement, de te casser la gueule, mais qui sont placés de façon à ce que si t'es un peu attentif, tu peux anticiper le problème et les esquiver. Enfin, pour avoir fait voilà, un peu plus de Dark Souls que maintenant. Je vois quand même qu'il y a une volonté de rendre ça intéressant et de plus ou moins punir les gens qui foncent dans le tas et récompenser les gens qui sont prudents en permettant de genre leur foutre un coup d'avance parce que tu es arrivé dans leur dos ou que t'as pu les voir de loin et tu leur as balancé un truc à la tronche, quoi. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en plus, c'est les ennemis qui vont aussi checker un petit peu si t'as compris un peu certaines mécaniques du jeu, comment te servir de certaines armes, certains boucliers, certaines mécaniques défensives.
Pardon, parce que j'ai un super truc pour rebondir là-dessus.
Mais vas-y, je t'en prie.
dans un de mes jeux vidéo favoris, Spider-Man sur PS1 de Neversoft, il y a un niveau où c'est un braquage de banque, enfin c'est une prise d'otage dans la banque. Si t'y vas en gros bourrin, les gens qui prennent en otage vont se mettre à viser les otages et leur tirer dessus, game over. Et du coup, ce qui est bien, c'est que comme tu joues à Spider-Man, tu peux te coller au plafond et tu peux y aller vraiment en mode indétectable. Et donc, en fait, ça reprend exactement ce que nous disait Mecton, c'est que ça pimente les choses, parce que tu peux pas juste aller du point A au point B. Tu dois soit être très réactif et éliminer les ennemis avant que tu aies un game over, ou si tu connais vachement bien le jeu, tu peux juste ne jamais te faire opérer.
Oui, ça fait partie des trucs où finalement l'ennemi devient une partie du level design. J'ai un autre exemple assez parlant là-dessus, c'est les alors on a cité un deuxième, on verra ça avec Antix juste après je pense, mais il y a les Megaman. Les Megaman finalement t'as les plateformes et puis les ennemis font véritablement partie du level design, c'est-à-dire que tu croises en général un premier ennemi où on te dit t'as vu, lui il lance des boules de feu, et puis l'ennemi suivant, eh ben il lance des boules de feu, mais derrière lui il y en a un autre qui saute, et puis après t'en as deux qui sautent et un qui lâche des boules de feu, et ainsi de suite. Et le jeu t'apprend ça au fur et à mesure, et t'apprends à lutter contre chacun de ses ennemis, puis à des combinaisons d'ennemis, mais ça fait vraiment partie intégrante du level design, quoi. C'est vraiment pas juste on t'a mis des plateformes et des obstacles, c'est les ennemis font partie du truc.
Ça me rappelle.
C'est une variante du design, de la façon de designer les niveaux de Nintendo, qui commence par des trucs un peu simples et qui pimente les trucs au fur et à mesure du niveau. Et je fais la même chose, mais appliqué à des ennemis. Et d'ailleurs, dans la partie apprendre les mécaniques, je repensais au niveau d'introduction de Mega Man X, qui est assez réputé là-dessus pour t'apprendre les mécaniques de jeu en t'imposant aussi des ennemis particuliers.
Tout à fait, les ennemis que tu ne peux battre qu'en concentrant ton rayon, les ennemis que tu peux esquiver simplement en sautant par-dessus, il y a plein de trucs. Le niveau d'introduction de Mega Man X est assez ouf en termes de level design, c'est vraiment une leçon. C'est un truc dont tout le monde devrait s'inspirer.
Tiens, il me semble que tu reviendras peut-être dessus après, mais les RPG sont très très forts pour ça aussi.
Alors, on va revenir dessus après. Il y a deux, trois trucs sur les RPG, justement, parce qu'on s'est rendu compte qu'un ennemi, ça avait plein de fonctions. Alors, il y a un deuxième truc, c'était aussi les histoires de reconnaissance de patterns. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Renard, et je crois que c'était Antix qui avait dit, en fait, dans les jeux d'infiltration aussi, il y a tout un truc autour des ennemis, c'est-à-dire que finalement, ils sont là pour rendre les choses intéressantes, mais ils sont, d'une certaine manière, extrêmement prévisibles, sinon tu pourrais pas jouer. Quasiment.
Ouais, en fait, quand une époque, on entendait dire, les gens dire, mais l'IAD, Metal Gear ou Splinter Cell, elle est nulle, etc., parce que l'ennemi, il est un peu bête, il ne voit pas exactement. Mais en fait, c'est le but même du design du jeu de te permettre d'anticiper. Oui, mais c'est pas forcément réfléchi à l'époque quand les gens disaient ça. Mais c'est le but, c'est de permettre d'anticiper les mouvements ennemis pour faire ta stratégie. Et c'est ça qui est intéressant. On a la même chose dans. Alors, moi, je pense surtout à Fire Emblem, parce que j'ai quand même bien joué à la série en 20 ans. Et j'ai remarqué que d'un jeu à l'autre, d'un épisode à l'autre, t'as des petites choses qui changent, mais en fait, l'ennemi est prévisible. Par exemple, si t'as un personnage désarmé, il va l'attaquer en priorité, même si t'as mis ton gros tank devant, qui prendra pas de dégâts. Mais du coup, ça permet, quand tu connais ce genre de pattern d'ennemi, tu peux créer des stratégies et aussi en abuser, mine de rien. Parce que on parlait de Dark Souls. Dark Souls fait aussi partie de ce jeu où tu peux abuser de l'IA de l'ennemi, parce qu'elle est prévisible avec des comportements qui sont assez limités, entre guillemets.
Mais faut voir ça comme un puzzle que tu détricotes, du coup.
Ouais, en fait, ça fait aussi partir du plaisir de jeu de trouver des stratégies qui te permettent aussi d'utiliser la façon dont t'es programmé l'IA à ton avantage pour te sortir de situations compliquées. Il y a quelque chose de très satisfaisant dans Fire Emblem, de créer un plan qui va forcer l'ennemi à attaquer telle unité pour sauver une que t'avais mal placée ou qui s'est pris un mauvais coup alors que c'était pas prévu, quoi.
Ce qu'on appelle casser le jeu de nos jours.
En fait, oui et non, parce que je pense que c'est genre
c'est prévu.
Un peu prévu, oui, tu vois.
C'est complètement prévu,
c'est complètement pensé pour. Hein. Je pense que, à mon avis, en playtest, les mecs leur remontent clairement, je l'ai repéré, j'ai repéré ce comportement-là, j'en ai abusé, quoi. Et du coup, ils ajustent aussi en conséquence, mais il faut aussi que ça reste amusant pour les joueurs.
Tout à fait. Toute la difficulté d'un ennemi, c'est ça, c'est qu'il faut que ça reste intéressant, amusant, que ce soit un challenge. Je ferai une toute petite conclusion sur Soul Reaver 1 et 2, justement, parce que vraiment des trucs, c'est le manuel de ce qu'il ne faut pas faire.
Moi, j'avais un autre jeu en tête là-dessus.
T'as quelques jeux en tête sur le manuel de ce qu'il ne faut pas faire ?
Bah ouais, mais on en parlera à la fin.
Je pense qu'on fera une petite conclusion là-dessus. Bref, on a aussi les ennemis qui t'apprennent à te servir d'un pouvoir. Alors, on a parlé des Dodongo tout à l'heure, mais c'est vrai que le truc de, par exemple, Link's Awakening et le bouclier. Tant que t'as pas le bouclier, tu ne peux pas pousser les pics sur la plage. Donc ça t'apprend aussi à te servir du bouclier. C'est-à-dire, effectivement, bah, va falloir que tu utilises le bouton pour te servir du bouclier. Et puis, bah, ça peut te permettre de passer certains obstacles. C'est pas toujours très bien exploité. En l'occurrence, dans Link's Awakening, c'est relativement peu exploité. Ça, c'est juste une clé à un endroit. Mais... et c'est à peu près tout. Mais t'as pas mal d'autres Zelda, c'est vraiment assez typique dans les Zelda et les Zelda-like, de manière générale, des jeux d'aventure, d'avoir effectivement cet ennemi que tu ne peux vaincre qu'avec un certain pouvoir, donc ça te permet d'aller appréhender le pouvoir que tu viens de gagner. On a le même genre de mécanisme dans les Metroid-like, finalement, où tu viens de récupérer un pouvoir. Alors soit c'est un truc de mouvement et on te permet de l'utiliser en toute sécurité tout de suite, soit c'est un nouveau pouvoir offensif ou défensif, et on va tout de suite, en général, te mettre un ennemi pour te montrer comment t'en servir, finalement. Dire, ah bah oui, il y a un timing particulier pour mettre ce bouclier, il y a un timing particulier pour utiliser ce rayon-là, etc., etc. Je trouve ça toujours intéressant de se dire, l'ennemi est là pour t'apprendre quelque chose précisément à un moment, et ensuite on va en mettre un peu partout, mais il est là pour t'apprendre ce truc-là. Tu vois un ennemi de glace, bah, prochain coup, tu te diras, ah, peut-être qu'il faut que j'utilise mon canon de feu.
Il y a un jeu qui est un peu décrié aussi pour ça, mais qui le fait de manière très intéressante, c'est Final Fantasy XIII. En fait, moi je trouve que le rythme de la faille est pas forcément très bon, mais il t'apprend à utiliser les classes au fur et à mesure en te confrontant à des ennemis qui auront besoin, qui nécessitent d'utiliser ces classes pour les battre. Avec aussi ce système d'au début, c'est des combinaisons assez simples à gérer, et puis après, tu vas avoir plusieurs ennemis qui vont se combiner en même temps. Donc en vrai, tu vas vraiment apprendre à utiliser ta nouvelle classe, donc les classes de soigneurs, les classes de magiciens et compagnie, dans des environnements très contrôlés, et pouvoir pousser le truc. Normalement, arriver au boss, tu le bats, t'as compris la classe, quoi, globalement. Et je trouve que c'était plutôt bien fait.
Ok. Pareil, côté RPG, il me semble que, Mecton, tu voulais dire un truc sur les RPG, parce que c'est le moment. C'est le moment
oui,
de briller.
La construction typique, justement, du... Je pense que ça rejoint ce que vient de dire Antix, des petits combats qui vont t'apprendre. Alors là, pour le coup, l'exemple que j'avais, moi, c'était les Shin Megami Tensei, particulièrement le 5, où les premiers combats sont là pour t'exposer comment fonctionnent les différents systèmes de combat, et comment ils s'enchevêtrent les uns avec les autres, et arriver au premier boss, le boss, globalement, c'est examen final, est-ce que t'as bien compris comment le système marche ?
Bah d'ailleurs, Megaten, il y a un truc intéressant aussi, ça on pourra revenir un peu après, c'est que les ennemis, c'est aussi potentiellement tes alliés.
Ah oui, il va falloir qu'on glisse un petit mot là-dessus, effectivement.
Ah oui.
Je finirai sur le côté RPG, pour les trucs positifs, le à quoi ça sert, c'est effectivement te filer de l'expérience. Alors c'est très con, hein, mais si les ennemis ne sont pas forcément intéressants à combattre d'un point de vue gameplay, ils peuvent être intéressants à combattre d'un point de vue expérience pour te permettre de progresser sur l'ensemble du jeu. Alors, faut pas qu'il y en ait trop, sinon on tombe rapidement dans le grinding un peu débile, mais si un ennemi n'est pas intéressant à combattre, bah, au minimum, faudrait qu'il rapporte des points d'expérience ou de la vie. C'est le cas dans certains Metroid, hein, où effectivement, t'as de la piétaille un peu partout qui sert pas à grand-chose, qui est pas très intéressante à combattre, mais qui te permet de regagner de la vie, des munitions, et ainsi de suite. Ça fait un mécanisme un peu plus intéressant que juste avoir une station de recharge où tu récupères tout.
Oui, ça rythme un peu les choses.
Ça rythme un peu plus les choses. Au départ, c'est avant tout un obstacle interactif qui fait partie du level design, pas de souci. Mais si en plus il peut avoir la fonction de te donner un truc, encore une fois, expérience, point de vie, munitions, etc., bah c'est tout bénef, finalement. Il sert à quelque chose. Même si, une fois que tu maîtrises parfaitement comment battre cet ennemi, il n'est pas devenu totalement inutile. Il peut quand même t'apporter quelque
chose. Ça en plus, pour le coup, dans les RPG, c'est un héritage de Donjons et Dragons, où le combat était quand même quelque chose d'assez central dans l'expérience de JDR papier, et qui du coup a été importé dans à peu près tous les RPG existants.
Alors, on nous a proposé de glisser un petit mot sur la dualité entre le PNJ et l'ennemi.
Ouais, c'est un cas très particulier.
C'est un cas particulier, mais c'est pas inintéressant.
Bah, tu parlais des moments plus narratifs, je pense que dans le cas d'Undertale, on est un petit peu dedans, en fait.
Alors, je pensais pas à Undertale forcément, mais je pensais à... Il y a un certain nombre de jeux où, tu sais, d'ordinaire, je prends un exemple très con, t'es dans un Doom, c'est toi qui as tendance à faire passer les ennemis de l'état solide à l'état liquide. Je reprends l'exemple de Mecton, mais c'est... Voilà. C'est toi qui provoque le chaos. Tu es l'agent du chaos, c'est toi qui élimines les ennemis. Quand tu débarques dans une salle de Doom Eternal où tous les ennemis sont déjà morts, ça devient un élément narratif. C'est tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Et t'as plein de choses comme ça au niveau des ennemis qui, effectivement, en fonction de leur placement, de leur comportement, vont aussi tenter de raconter quelque chose. Là, je pense que sur Undertale, c'est un tout petit peu différent.
Ça fait partie de la narration du jeu, en fait. Mais pour moi, on est peut-être plus sur un exemple un peu à la Megaten et à la Persona où
les ennemis t'en...
Pokémon, ouais, ça marche aussi Pokémon, mais aussi Dragon Quest V d'ailleurs, pendant que j'y suis, où en fait les ennemis que tu affrontes, Undertale c'est un petit peu différent, mais c'est des personnages avec lesquels tu vas pouvoir interagir, dans le sens où Undertale, un des concepts du jeu c'est de ne pas justement tuer tout ce qui te passe sous la main, puisque les ennemis que tu affrontes en fait c'est les PNJ du monde que tu visites, et donc si tu les butes tu les vois plus. Parce qu'il y a notamment dans la run génocide, la fameuse, si tu tues tout le monde, en fait, tous les villages seront vides. Mais il y a, du coup, dans le cas d'Undertale, mais aussi dans le cas d'un Megaten ou d'un Pokémon, il y a cette volonté aussi d'interagir de manière non létale avec ses ennemis, potentiellement pour les... Alors, dans Undertale, pour les épargner, mais dans un Megaten ou dans un Pokémon, pour les recruter. Et notamment, Megaten, ça passe aussi par des dialogues, essayer de comprendre ce que veut la personne en face qui est un démon et qui souvent essaie de t'arnaquer aussi, hein. Parce qu'il y a aussi ça. Mais oui, je suis d'accord avec Kerbix que dans Undertale, on est sur un autre niveau que Pokémon. Attention,
ça va plus loin, ça va vraiment se réfléchir sur est-ce que tuer, c'est mal, tu vois.
En fait, c'est là où il y a un élément narratif, c'est qu'en fonction du nombre d'ennemis que tu as tué, t'as pas la même fin. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant aussi d'avoir cette idée de se dire, je peux faire autre chose dans un RPG notamment, parce que tous les exemples qu'on a, c'est des RPG. Je peux faire autre chose que juste réduire un point de vie à zéro, je peux aussi essayer d'obtenir soit leur collaboration, soit leur faire en sorte d'annuler le combat via des options de dialogue qui sont en fait des formes de combat dans le combat, sont une autre forme de combat en termes de mécanique de jeu. C'est une joute verbale, mais qui du coup rend aussi pimente un peu la chose, parce que c'est prendre des risques, qui est que peut-être que la personne en face va pas être réceptive et te casser la gueule, quoi.
Ok. Effectivement, il y a vraiment un twist particulier là-dessus, quoi. Il y a vraiment un twist très très particulier. Du coup, qu'est-ce qui fait un mauvais ennemi? Parce qu'on va quand même arriver à conclure.
Alors,
là-dessus.
Il y a le bon ennemi, il arrive, il te bloque, il te fait perdre des points de vie. Lui, c'est un bon ennemi. Et le mauvais ennemi, il arrive, il a des patterns chelous, il te drop de 50 mètres en arrière, il te tombe dans un trou, et lui, c'est vraiment un mauvais ennemi.
Merde, alors... le micro était bloqué. C'est dommage, parce que je voulais du coup faire une interjection comme quoi, à l'inverse de Undertale, on a Oddworld, où là, on peut prendre possession des ennemis, et du coup, il y a un élément narratif dans leur sociologie. C'est dommage, j'ai écrit un texte pour le blog, mais il n'est pas fini. Comme quoi, quand on va prendre possession d'un ennemi dans Oddworld, en fait, on va participer à leur hiérarchie sociale. Grand exemple, il y a les paramites, qui sont des animaux sociaux, et du coup, ils vont communiquer entre elles. À l'inverse, il y a les scrabs, qui eux sont hyper territoriaux, et qui du coup, ils n'ont que deux fonctions GameSpeak, c'est hurlement, moulinette. La moulinette étant un cri rituel qui leur permet de défoncer la gueule à tout le monde.
Oui. Effectivement, ça fait partie des exemples un peu intéressants où tout d'un coup, là, on a inversé un peu la mécanique. C'est-à-dire tu prends le contrôle d'un ennemi pour faire quelque chose avec ses capacités à lui. Et c'est pas... Il y a un côté à la fois narratif, effectivement, social. C'est-à-dire tu te retrouves, quand tu contrôles certains ennemis, tu te retrouves tout en bas de l'échelle sociale de tes adversaires, de la race de tes adversaires. Mais oui, je suis d'accord, il y a un côté assez intéressant là-dedans. C'est peut-être le seul truc intéressant dans Oddworld.
Moi, ça rejoint l'ennemi puzzle.
Oui et non, d'un point de vue fonctionnel je suis d'accord, mais d'un point de vue narratif t'as vraiment une seconde lecture à tout ça. Voilà, bref. Le mauvais ennemi, donc à part celui qui te fait obstacle et tout ça, je vous donne un exemple de Soul River 2 qui m'a vraiment choqué, c'est-à-dire que, alors même Soul River 1 en vrai, c'est-à-dire que combattre les ennemis ça ne te rapporte pas d'XP. Donc t'as pas vraiment d'incentive, tu vois, t'as pas d'incitation à combattre les ennemis. Ils peuvent te faire perdre de la vie. Bon, ça c'est normal, c'est un ennemi. Sauf que pour regagner de la vie, il faut tuer les ennemis. Donc en fait, si tu n'y touches pas, si tu passes à côté, ben basiquement, tu perds moins de temps.
Non, putain, si tu viens d'écrire une connerie, c'est une poule dans Zelda en fait.
Mais c'est un peu ça quoi. Mais sauf que la poule dans Zelda, c'est pas. Alors est-ce que c'est un PNJ ou est-ce que c'est un ennemi? Ça dépend.
Ça dépend de si tu l'emmerdes.
C'est ça. Et le pire dans Soul River, c'est que bah, en fait, les ennemis sont entre guillemets attachés à une zone de jeu. C'est-à-dire que quand tu t'éloignes un peu, il y a un mur invisible et ils peuvent pas le franchir. Donc tu peux vraiment littéralement faire 10 mètres, t'arrêter, les narguer, les regarder droit dans les yeux et puis de toute façon ils vont venir, puis ils vont se rebarrer. Voilà. Donc ça n'a aucun putain d'intérêt. C'est extraordinaire. Voilà.
Tu peux systématiquement
les esquiver, ils ne servent absolument à rien.
Sauf si tu fais une énigme, mais généralement ils sont pas tellement dans les zones où tu fais des énigmes.
Oui, il y a quelques ennemis qui sont dans les zones d'énigmes où en fait on revient à Resident Evil, c'est-à-dire finalement t'as intérêt à t'en débarrasser pour être tranquille.
Voilà, parce mais que une fois que c'est fait, t'es tranquille. C'est mais il n'y a pas cette question de ressources qu'on a dans les Resident Evil.
C'est ça, et puis en plus, encore une fois, c'est pour regagner de la vie, il faut vaincre des ennemis, mais donc ça veut dire que le seul truc qui te fait vraiment perdre de la vie, c'est les ennemis, donc en fait, combattre les ennemis te permet éventuellement d'avoir un jeu à somme nulle par rapport à ce qu'ils t'ont fait, enfin, c'est débile. Voilà, je suis désolé, c'est complètement débile.
Il y a une exception, et c'est les humains dans Soul River 1.
Oui, tout à fait.
Si tu épargnes le premier que tu rencontres, après ils te foutent la paix.
C'est ça, mais là c'est presque un élément narratif. Donc c'est voilà. Et Antix nous posait la question, c'est quoi un bon ennemi du coup?
Moi j'avais des exemples de mauvais ennemis par contre. J'en ai deux.
Alors, vas-y, franchement, je t'en prie, parce que alors, moi j'ai donné le mien.
Qui sont des exemples un peu similaires d'ailleurs. Donc le premier c'est dans Chrono Cross, qui est la suite de Chrono Trigger. Et il faut savoir que ce jeu a un système de progression un peu particulier, puisqu'on ne gagne des niveaux qu'en tuant les boss. Donc en fait, tous les ennemis intermédiaires...
Ah, ne servent à rien.
Ne servent pas à grand-chose, à part gagner des magies. C'est des slots un peu particuliers. J'explique le système, mais globalement, tu gagnes des objets qui permettent de faire de la magie. Et l'autre exemple que j'ai en tête, mais qui pour moi est beaucoup plus... je pense parlera beaucoup plus de monde ici. C'est tous les ennemis, autres que les boss, et encore, je pense que ça peut marcher pour certains, des trois derniers Paper Mario. Où tu ne gagnes pas d'XP. Alors en plus dans Aura Gaming King les combats sont un peu longs. Dans Sticker Star ça te fait perdre des ressources, donc tu perds vraiment du temps à les combattre.
C'est ça, tu perds du temps, tu perds des ressources, tu gagnes. T'as rien à gagner en fait à combattre les ennemis. Si tu peux les esquiver, c'est plus intéressant. C'est là où t'as vraiment un problème. Je suis désolé, je te relaisse la parole après, mais c'est si vraiment tu as intérêt pour finir le jeu, ou intérêt pour rendre le jeu plus intéressant, de ne pas combattre. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui t'a raté quelque chose pour moi en termes de design.
Et en plus, le pire, c'est que notamment dans Origami King, et même dans Sticker Stars, j'ai pas fait celui sur Wii U, donc je l'ai pas en tête, mais en gros, la façon de battre les boss n'a finalement aucun rapport avec la façon dont tu bats les ennemis de boss, puisque dans Sticker Star, il faut souvent un sticker spécifique et tu exploses le boss. Et dans Origami King, la dynamique de combat est quasiment inversée. Donc en fait, t'es là, genre, mais vous auriez pu juste être des jeux d'aventure à la Monkey Island, ça aurait été vachement mieux. Moi, c'est ce que je pense depuis Paper Mario, depuis 3 épisodes. Hein, il retirait les combats de base, c'était génial.
Je suis d'accord, surtout que les combats.
Origami King aurait été génial. Sticker Star aurait toujours été nul, mais...
Mais c'est parce qu'en fait, les combats sont intéressants au départ, mais finalement, ça se renouvelle pas beaucoup non plus. C'est-à-dire, t'as aussi le côté intéressant du combat que tu peux te dire, ok, les ennemis servent pas à grand-chose, mais au moins les combats sont intéressants stratégiquement, il y a des choses intéressantes à faire.
Alors, ils sont un peu plus intéressants, mais je les trouve un peu longues. Mais typiquement, les combats de boss sont bien plus intéressants parce que te mettent vraiment dans des situations compliquées, te demandent de réfléchir à ton parcours. Après, voilà, c'est une bonne introduction à la mécanique des boss, mais je trouve que c'est largement plus finable.
On est d'accord. Je vous propose de nous arrêter là sur ce sujet.
Je peux donner mon exemple d'ennemi.
Alors vas-y, on est là pour les mauvais exemples.
Parce que ça transite bien dans le prochain sujet. Les ennemis de base dans les Musso. En fait, quand je joue à Age of Calamity,
c'est des sacs de frappe.
Oui, ce sont des sacs de frappe. Mais quand j'ai joué à Age of Calamity, en fait, leur seule utilité, c'est que quand tu en tues un, tu as un petit certificat qui dit tu as tué un ennemi, c'est non. bien, tu peux le dépenser ailleurs.
T'as l'XP, t'as les KO, et puis
t'as la dopamine.
Ouais, la dopamine, voilà. Vecto, il a compris.
C'est ça. Oui. Il sert à faire des gros Vecto, chiffres.
Vecto, il a compris ce que je voulais dire.
Il sert à faire des gros chiffres à l'écran.
C'est, oui. c'est l'intérêt de ce jeu, c'est de les défoncer par dizaines et de les voir voler, et ça, c'est cool. Oui, ils servent à rien, mais ça, c'est drôle.
Ouais. mais du coup, il y a aussi, c'est du coup un truc des. Ça revient un petit peu sur ce qu'on disait, l'ennemi qui sert de ressource. Parce que dans Warframe,
oui, vrai,
parce
oui.
qu'évidemment, je vais mentionner Warframe.
Pour Warframe.
Et merde.
voilà. Et merde. On tue des ennemis, on tue 500 ennemis en moins de 5 minutes. Encore heureux qu'ils te donnent des ressources, hein.
Oui, non, mais quand même. Il y a un petit peu de respect. Bref, donc, deuxième pause musicale. On va y arriver. Yes. Puis comme ça, après, on parlera effectivement de Zelda tapé, et on reparlera des ennemis.
On va dire trois fois à chaque fois, hein. Parce que c'est Zelda tapé 3.
Zelda 3 tapé. C'est plus simple. Bref, on va écouter un autre morceau qui dure un tout petit peu moins de 2 minutes. Alors, c'est toujours composé par le studio Monaka, toujours sous la direction de Daichi Sugaya. Le morceau s'appelle Bitter Sorrow. C'est le morceau de quand c'est triste dans les cinématiques. Je suis vraiment, c'est le morceau qui fait pleurer. Bref, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 2 minutes. A tout de suite. Voilà de retour.
Retour.
Et donc, on va parler de. Alors, on a dit Zelda 3 tapé, c'est ça.
C'est ça.
Zelda tapé au cube aussi.
Voilà, Zelda tapé
au
cube.
Au GameCube du coup.
Zelda tapé GameCube.
Full circle. On est revenu au début.
Ah non, full cubique. La mauvaise figure géométrique.
Bref, Hyrule Warriors. On va pas y arriver. Hyrule Warriors 3. Hyrule Warriors Edge of Imprisonment pour les gens qui veulent être un peu voilà, ou Hyrule Warriors les Chroniques du Sceau.
Ouais, alors c'est un truc qui se passe à la plage.
C'est exactement. Ouais.
ou Gog.
C'est ou un idiot du village, on sait pas.
Ils vont probablement construire le château à la fin, hein.
Je sais pas. Voilà, on ne spoilera pas parce que on s'est fait un petit peu avoir. Bref, c'est un mousseau. Les mousseaux avec Zelda, on commence à avoir l'habitude. C'est vrai que depuis Hyrule Warriors 3, qui était sorti sur Wii U, rappelez-vous, Hyrule Warriors 1, pardon, qui était sorti sur Wii U, rappelez-vous, c'était il y a 15 ans.
Non, c'était il y a 10 ans, s'il te plaît.
Voilà, c'était il y a 10 ans. On commence à avoir l'habitude. L'habitude. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a une licence Nintendo qui y passe. Alors, en l'occurrence, on en a eu que deux. On a eu Zelda et Fire Emblem.
Donc, la prochaine fois, ce sera Fire Emblem, hein. Notez.
Il y a moyen que la prochaine fois ce soit Fire Emblem, et sachant que le prochain Fire Emblem c'est le Fire Emblem Jeux Olympiques de Paris 2024, peut-être qu'on aura
un manif, un CGT Mousseau.
Gendarmerie Nationale Mousseau.
Non, je vais pas faire cette blague. Sainte-Soline Mousseau, après Sainte-Soline, je sais pas si j'ai envie de faire cette blague, tu vois. Ça leur fait trop plaisir, j'ai pas envie.
Ouais, peut-être pas faire ça. Bref, ce Hyrule Warriors 3, pour vous faire le scénario très très rapidement, vous vous rappelez qu'au tout début de Tears of the Kingdom, vous rencontrez un cadavre bizarre dans les sous-sols du château, et il s'est passé des trucs avec des îles dans le ciel et tout ça. Vous descendez, vous rencontrez ce cadavre bizarre, il se réveille, et Zelda est projetée, on ne sait pas où. Elle disparaît, et en fait on apprend au fur et à mesure de Tears of the Kingdom, ce n'est pas un spoil, hein, c'était vraiment dans le début du jeu, qu'en fait elle a remonté le temps, elle s'est retrouvée à la fondation... du royaume d'Hyrule. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est que ce Hyrule Warriors 3 nous raconte tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Donc en gros, c'est les souvenirs qu'on avait de Tears of the Kingdom, mais
interactif. Et très détaillé.
Et extrêmement détaillé, puisqu'on
a la version Director's Cut, ça. Ils ont retrouvé les restes de cinématiques.
C'est presque ça. Alors, je ne sais pas si ça a été fait exprès au moment où Tears of the Kingdom a été créé, parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont étonnamment raccords.
Ah, il y a des trucs qui collent au poil de cul, c'est vraiment plaisant.
Alors, vu le succès de Tears of the Kingdom et du Hyrule Warriors Breath of the Wild, je pense qu'ils l'ont anticipé assez vite. Ils se sont dit,
impossible.
On le sort dans 2-3 ans, on sait très bien de quoi on va parler, ils savent très bien ce qui va arriver.
Voilà. Bref, je vous propose de commencer par les petites nouveautés du jeu, parce qu'il y en a quand même quelques-unes.
Gameplay.
De gameplay. Alors,
déjà, il n'y a pas même... Link.
Ah, il y a...
Wink.
Ouais, c'est compliqué.
Ils ont dit Joker.
C'est compliqué.
Dans les pouces, on est confort. On retrouve des petits trucs.
On retrouve des trucs. Ouais, on est quand même à la maison. Mais effectivement, il n'y a pas Link. En tout cas, pas officiellement, voilà. On rappelle quand même un petit peu je me permets de rappeler les 2-3 principes de base du Musou, hein. L'idée, c'est qu'on te file une carte, il y a des milliers d'ennemis, littéralement. Il y a vraiment des milliers et des milliers d'ennemis qui sont tous un peu débiles, mais qui sont des obstacles, en fait, et qui te permettent de gagner des ressources et de faire des KO, et en fait, c'est un peu ça le principe. Et l'idée... toutes les cartes ne fonctionnent pas de la même manière, mais... L'idée de base, c'est on doit conquérir les forts de la carte. Chaque fois qu'on conquiert un fort sur la carte, ce fort, on le reprend aux ennemis, et donc il va générer des alliés qui vont essayer de le tenir. Et en fait, une fois qu'on a vaincu un certain nombre d'ennemis, ou qu'on a pris un certain nombre de forts, ou qu'on a vaincu un certain nombre d'ennemis, ou qu'on a vaincu un boss, une fois qu'on a pris tous les forts de la carte, et ben on finit la carte. Ça, c'est les cartes de base. C'est à peu près toujours comme ça que ça fonctionne dans un Musou. En ce qui concerne les Hyrule Warriors en particulier, alors notamment depuis Age of Calamity d'ailleurs, il y a aussi pas mal de missions intermédiaires pour gagner des bonus, de missions de recrutement, de petits événements qui sont sur la carte, puisque exactement comme dans Age of Calamity, Age of Imprisonment profite de la carte d'Hyrule sous-sol, surface et aérienne, donc les trois niveaux, pour mettre plein de petits objectifs un peu partout. Les possibilités d'améliorer des persos, des armes, les camps de base qui te permettent d'aller forger de nouvelles armes, les missions de recrutement, etc., etc. Donc t'as toujours quelque chose à faire. Et c'est un peu moins lourd que le premier Hyrule Warriors, je sais pas si vous vous rappelez, mais où il y avait un mode qui permettait... Enfin, en fait, en gros, pour finir ce mode-là, fallait jouer 600 heures. Enfin, c'était un truc complètement délirant, parce que t'avais des missions générées plus ou moins aléatoirement, enfin...
Oui, non, là, délire. C'est... Il y a des missions à la con, mais elles sont justifiées par le scénario.
C'est ça. Et à chaque fois, ça a une utilité. C'est jamais totalement inutile. Sachant que tout est optionnel, hein. Tu peux te contenter de faire les missions histoire en ligne droite, sans que ça pose de vrais problèmes de progression. Sauf, alors en facile, c'est sûr. En moyen, c'est peut-être un peu moins gagné. T'as peut-être intérêt à faire 2-3 missions intermédiaires pour gagner un peu d'XP.
Je sais pas si les... Bon, au risque de spoiler un tout petit truc, il y a des missions en fait où... Sur la carte, on va voir l'armée ennemie poussée sur un certain territoire, et là, on a genre 4 tours de jeu pour s'occuper de cette mission. Je sais pas ce qui se passe si on laisse faire.
Alors, si tu laisses faire, tu perds ce bout de territoire.
Et donc, éventuellement, les installations qui sont dedans. Quoi.
Okay. Exactement. De toute façon, c'est une espèce de méta-jeu de stratégie, finalement, t'as okay. Un côté...
C'est léger, hein, prenez pas peur, ça reste
oui,
du Musou.
Oui, non, ça reste du Musou. Mais c'est juste que, voilà, typiquement, si tu as t'as des points sur la carte, je vais donner un exemple très con, mais des points d'amélioration des personnages, donc t'as des points sur la carte où, en fait, quand tu vas donner des ressources, donc ce que disait Renard tout à l'heure, t'as le certificat comme quoi t'as éclaté 1000 et demi, donc tu mets 1000 certificats plus 3 bananes et 2 bombes, tu vas améliorer de 1 point de vie tel perso. Et ça marche si la région reste à ta main.
Ok.
Sinon, le mec se retrouve dégradé. T'as pas trop intérêt à ce que ça se produise, mais...
Sauf si tu veux te créer ton propre mode ultra difficile, quoi. Ok.
C'est ça, mais en vrai... je l'ai fait en normal, le jeu. Je pense qu'en normal, c'est intéressant de faire de temps en temps une mission de recrutement ou les petits trucs annexes pour gagner un peu d'XP, mais en vrai, je suis même pas sûr que ce soit obligatoire.
Je vois ça... Parlons-en tout de suite, les missions scénarisées sont relativement longues. Entre une demi-heure et une heure, ces petites missions bonus, c'est 5-10 minutes.
Ouais, voilà. En fait, ce qui est bien dans je prends un peu d'avance sur le sujet, mais c'est pas très grave. Ce que je trouve bien là-dedans, c'est que finalement, t'allumes ta console, tu vas te faire une mission de l'histoire principale, t'as bien avancé dans le scénario, t'es content, tu vas faire 2-3 trucs annexes à côté, puis après t'éteins, et puis voilà. Et pas... Tu vas pas aller enchaîner comme
dans le précédent, en fait.
C'est très proche.
Mais c'est ce que je trouvais bien par rapport au premier Hyrule Warriors, c'est que du coup, t'étais moins tenté... T'étais moins asphyxié par la quantité de choses à faire.
Oui.
Et a priori, c'est pareil sur celui-là, du coup.
Oui. C'est ça. T'as toujours ça, un cool truc à faire si t'as envie de le faire. Mais en vrai, une fois que t'as
fini... T'en as pas un milliard, quoi.
C'est ça. Une fois que t'as fini ton truc d'histoire, tu vas avoir t'as un petit robot Sonao sur la carte qui te... comment dire... Qui te pointe le truc conseillé. En gros, t'as quand même une mission conseillée ou les upgrades conseillés ou les choses comme ça. T'es pas obligé de le faire non plus. Mais ce qui est bien, c'est qu'en général, bah oui, tu vas avoir, je sais pas, 2-3 upgrades disponibles, éventuellement une forge, un artefact Sonao, un machin, un bidule. Tu vas avoir 2-3 bricoles, t'as éventuellement une petite mission, mais en général, effectivement, 5-10 minutes, un truc assez rapide. Et puis après, t'as de nouveau l'histoire qui est... Enfin, t'as toujours eu l'histoire qui est accessible, mais là, une fois que t'as fini les trucs recommandés et puis qu'il n'y a plus grand-chose qui t'intéresse, tu peux reprendre l'histoire derrière.
Il n'y a pas 2-3 missions qui te permettent de débloquer un personnage secondaire. Je crois qu'il y avait ça dans
oui,
le précédent.
Oui, t'as les missions de recrutement.
Ici.
Ah, d'accord. C'est ça dont tu parlais. Okay.
C'est la même mission de 5-10 minutes. Souvent sur la même carte, d'ailleurs.
Oui. Bien.
La variété des cartes, par contre, c'est un peu moyen.
Je sais pas si tu lis les textes, mais c'est assez drôle. Genre, oui, grosse bataille, machin, puis c'est la petite mission secondaire. Ah oui, au fait, on a oublié José, il était au chiottes, faut aller le sauver.
C'est exactement ça. En plus, c'est presque ça. Des fois, tu sens que les petites intros, tu sens que c'était obligé d'en avoir une, mais tu sens qu'ils ont pas fait trop d'efforts pour en faire.
Ouais,
finalement, Roger, c'était le mec dans la main dans les chiottes de Majora's Mask.
C'est possible, c'est ça. Et donc, on a oublié José à l'arrière.
Bataillon, non ?
Pardon, excuse-moi.
Ce sont des persos inconnus au bataillon. Enfin, il y a les,
alors, pour
y a
le
les
coup,
sages là, mais on les connaît qu'avec le masque.
Pour le coup, c'est ce que je trouve très couillu et c'est ce que demandait Pab dans le chat. C'est que, autant celui d'avant était blindé de fanservice, genre vas-y, on va téléporter le grand frère du futur pour qu'il puisse jouer avec sa sœur, blablabla. Celui-là, on reprend les races connues de Tears of the Kingdom, mais ce ne sont que des personnages inédits. Alors, hors Zeldar, Rou, enfin tous ceux qu'on connaît à travers les souvenirs, mais c'est que des personnages inédits, je trouve ça assez couillu, pour le coup.
Ouais, je trouve que... Bah, on en reparlera un petit peu côté et histoire et DA.
Ils sont, ouais, bien écrits, bien... Enfin, bien écrits. Ça reste du Musso, mais... Ils ont une bonne gueule.
C'est ça, et je pense qu'il y a des choses intéressantes à en dire, justement, de tout ce qui est personnage et tout ça, parce qu'il y a... Oui, il y a effectivement un parti pris de dire... Non, c'est vraiment une aventure parallèle à Tears of the Kingdom, c'est assumé. Et ils vont jusqu'au bout du truc. Pour ça, je te dis, je serais pas très étonné qu'au moment de Tears of the Kingdom, Nintendo ait pas réservé un petit morceau en disant « Hey les gars, vous voulez pas ? Regardez, on vous garde ce bout-là, faites ce que vous voulez avec. Vous essayez de suivre à peu près la trame là, et puis voilà, ça va bien se passer. »
À vrai dire, Tears of the Kingdom n'avait pas besoin de ce coup supplémentaire.
Oui, mais bon, on la reprend. Hein.
Oui, voilà.
Bref, les quelques petites nouveautés, par contre, parce que du coup, il y en a quand même.
Oui.
On a la première grosse nouveauté, c'est les artefacts Sonao.
Voilà, et donc ça, ce qui est très très cool, c'est que ça respecte vraiment l'univers et ce qu'avait apporté Tears of the Kingdom par rapport à Breath of the Wild. Alors je sais plus si dans le 2 on jouait avec ça, mais là pour le coup celui-là appuie énormément sur l'aspect élémentaire des pouvoirs.
Dans le 2, il y a un aspect élémentaire, mais c'est tu récupères des sceptres. T'as le feu, t'as la glace, t'as la foudre. La foudre, ça marche sur tout
sceptre,
le monde.
C'est vrai.
Voilà. La glace est efficace sur le feu est efficace sur la glace, et c'est à peu près tout.
Oui, là, ça va un petit peu plus loin, puisqu'on récupère les vrais artefacts Sonao, et ils ont tous un effet un petit peu particulier. Alors, il y a, on va dire, trois effets un petit peu particuliers, parce que t'as quelques ennemis qui ont des attaques particulières. Mais en gros, les artefacts Sonao, en plus du le tuyau qui fait de la flotte, la tête qui crache du feu, la tête qui crache des éclairs, la tête qui crache de la glace, les bombes, les conneries comme ça, tu vois, t'as les trucs Sonao classiques, mais t'as aussi le ventilo, t'as la roquette, t'as tout un tas de bordel à côté.
ça remplace aussi les pouvoirs de la tablette Cheka, les bombes, Cinétis et tout le bazar, non ?
Et, alors non, justement, t'as pas ça. Tu n'as pas les pouvoirs de la tablette Cheka, donc t'as pas les Cinétis, t'as pas les trucs comme ça.
Ça est remplacé par les artefacts.
C'est ça, c'est pardon, oui, excuse-moi, c'est, effectivement, c'est remplacé par les artefacts. Mais je trouve qu'il y a un côté très intéressant à ces artefacts, parce que t'as vraiment à peu près toujours une utilisation contextuelle. On te le montre systématiquement. On te dit, tiens, tu vas atterrir dans un niveau, tous les ennemis sont englués dans de la boue, donc oui, il faut les nettoyer, il faut les passer au Karcher, en gros, pour que ça marche. Mais le truc, c'est que souvent, 2-3 missions après, tu vas retrouver ce truc-là, où tu vas avoir des ennemis englués, mais des ennemis englués de feu, des ennemis englués de glace, des ennemis englués sensibles à ci, sensibles à mi, des ennemis avec des boucliers plus de la glu. Donc il va falloir à chaque fois que tu te démerdes pour aller combiner tout ce bordel. Et t'as vraiment un...
Et ça se combine plutôt bien.
Voilà. Ça marche très bien.
Alors, tu peux réfléchir si tu veux te faire plaisir, mais si tu y vas bourrin, ça marche aussi. C'est comme ça que j'ai découvert comment on fait des tornades de feu, par exemple.
Ouais, voilà, tu peux commencer à faire des trucs un peu rigolos.
J'ai juste une question. Oui. Est-ce que l'utilisation d'un artefact est la même d'un personnage à l'autre ?
Parce alors, que dans... alors, oui et non.
Oui, mais... Voilà, oui, parce mais que... ils ont quand même tous des pouvoirs qui leur sont uniques.
Ouais, parce que dans le 2, quand on utilisait
des personnages,
le truc pour faire le pilier de glace, en fait, ça dépendait d'un perso à l'autre. Link, par exemple, il le faisait en dessous de lui. Il y avait un autre personnage, il faisait tourner 3 piliers en dessous. Et moi, okay. Ça me posait un problème parce que du coup, je voulais faire un truc pour interrompre l'attaque d'un adversaire. Et j'étais du genre, non, pourquoi tu fais comme ça ?
Là, non. Alors, là,
l'exemple que je vais avoir, c'est...
Vas-y, je t'en prie.
L'artefact des bombes, par exemple, t'as des personnages qui n'en ont pas besoin parce que leur attaque forte va faire le même effet.
Ouais,
voilà. On va arriver aux effets parce que on a parlé beaucoup d'effets élémentaires, mais comme disait Mecton, il y a une beaucoup plus grosse emphase sur les ennemis spéciaux. En fait, il y a beaucoup plus de mini-boss en gros sur la carte. Et souvent, l'objectif intermédiaire dans la mission, en plus de conquérir les forts et tout ça, et d'avancer, et taper, hein, pas de problème là-dessus, mais très souvent, il faut aller combattre des ennemis spéciaux qui vont avoir des trucs élémentaires et qui vont avoir des attaques un peu particulières, des attaques stéréotypées. C'est-à-dire que, typiquement, t'as un ennemi qui va se colorer en rouge, il va faire 2 lignes rouges devant lui, ça veut dire qu'il va te charger, et donc il faut le contrer avec un pouvoir Sonao. Alors, tu as les pouvoirs propres de chaque personnage. Donc, chaque personnage a en gros une espèce de contre-horizontal, un contre-vertical, et je crois qu'il y a un truc anti-bouclier.
Un truc anti-bouclier et un pouvoir qui est spécial à chaque personnage. Oui.
Et un pouvoir spécial à chaque personnage. Donc, souvent, t'as une combinaison particulière. Donc, typiquement, tu vas avoir n'importe quoi. T'as un beau gobelin avec un gros bouclier qui va commencer à te foncer dessus. Bah, s'il te fonce dessus, la première chose qu'il faut faire, c'est effectivement faire un contre horizontal. Donc en gros, tu vas utiliser soit un artefact Sonao, soit le pouvoir du personnage. S'il saute et qu'il va t'atterrir dessus, pareil, il faut faire un contre vertical. Donc là, c'est pareil, soit un artefact Sonao, soit un pouvoir spécial du personnage. Sachant que sur chaque petit artefact Sonao et chaque petit pouvoir, ça t'indique exactement ce que c'est supposé contrer. Et le fait qu'il ait un bouclier, ça veut dire qu'il va falloir casser son bouclier. Donc pareil, il faut que t'aies un artefact Sonao casse-bouclier ou un pouvoir casse-bouclier. C'est là où t'es obligé vraiment de jouer à pierre-feuille-ciseaux avec le mec en face, quoi. Et c'est pas mal foutu. Marche plutôt bien.
C'est très bien foutu, et ça leur permet de rajouter du rythme, genre, je sais pas, ton ennemi en face lance son attaque du ciel, là, manque de bol, ton pouvoir qui est censé contrer le truc est en cooldown, si t'as un personnage allié à proximité qui pourrait le contrer, t'as possibilité de faire un petit changement rapide, et ça met une petite dynamique qui est vraiment sympa.
Et oui, et en plus, ah oui, on n'a pas dit, c'est que les pouvoirs de chaque personnage... Donc le pouvoir, vraiment le truc spécial, hein. Effectivement, ont un cooldown, ça doit être 10-15 secondes, donc c'est quand même assez long. C'est-à-dire que quand t'as fait un contre-vertical, bah tu peux plus le faire pendant 10 secondes. Donc faut quand même à utiliser avec parcimonie. Les artefacts Sonao utilisent de la batterie, exactement comme dans Tears of the Kingdom, batterie qui se recharge très 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 lentement, mais qui se recharge quand même. Donc ça veut dire que si tu viens de patater un mec qui te sautait dessus... avec ton contre-vertical, et qu'il y en a un autre qui te fonce dessus, et qu'il faut que tu sortes ton contre-horizontal, mais que t'as plus de pouvoir, tu peux aussi aller prendre un artefact Sonao qui a exactement le même effet, et niquer un peu de batterie. Donc, ça donne plein de possibilités. Changer de personnage pour aller faire le contre, utiliser un artefact plutôt que d'utiliser ton pouvoir. Voilà, et tu peux faire évidemment des combos de tout ça, sachant que idéalement t'es toujours à deux personnages au même endroit ou à peu près pour justement essayer de faire des combos un peu rigolos.
Mais malheureusement, pas de Metal Gear dans cet épisode.
Il y a deux, trois trucs. Il y a des robots. Il y a des golems très très puissants. Il y a des petits trucs. Il se passe des petits trucs quand même. Bref, le deuxième gros truc, c'est les combos à deux persos. Oui. Donc t'as en plus de la, alors en plus, alors c'est toujours pareil, alors Evil Warriors, de manière générale les mousseaux, t'as plein de jauges partout, c'est un enfer. Donc en plus de ta jauge de spécial, de ta jauge de pouvoir spécial, de ta batterie, de ta vie, de ton machin, t'as une jauge de synchro entre les persos. Alors, je sais pas si ça s'appelle, si je crois que c'est une jauge de synchro, c'est comme ça que ça s'appelle.
Je sais plus comment ils appellent ça, on s'en fout.
on s'en bat les couilles.
Mais c'est bref, la jauge bleue à gauche là.
C'est la jauge bleue à gauche, ouais. Quand t'as la jauge d'un autre personnage qui est remplie et que t'es juste à côté, alors faut vraiment être juste à côté en plus. Hein. En gros, ils font.
Ce qui est bien, parce que si t'en as plusieurs, ça te permet de choisir celui avec qui tu veux faire ton attaque.
Si, ils font un high five, et vraiment ils font un high five, hein, c'est ridicule. Et à ce moment-là, ils lancent une attaque synchro. Et le truc rigolo de l'attaque synchro, c'est qu'en fait, t'as une animation différente pour chaque couple de personnages. Ils ont toujours plus ou moins le même pouvoir.
C'est ce qui t'encourage à les changer sans arrêt, et c'est vraiment chouette.
Oui, parce que tu vas tester qu'est-ce qui se passe si j'ai la capitaine Zora et le Korogu, qu'est-ce qui se passe si j'ai le golem et Zelda, qu'est-ce qui se passe si j'ai Raoru et Mineru, et en fait, ils ont tous un truc un tout petit peu différent. Et c'est assez rigolo, et c'est extrêmement efficace. Là-dessus, ça te fume un boss en 10 secondes. Hein. À se le dire, ça fait des gros dégâts. Ça fait des gros points sur l'écran, et des gros chiffres. Ça fait plaisir. Voilà. Et le dernier petit truc, je vais peut-être te laisser en parler, Mecton, parce que j'ai beaucoup parlé. C'est les missions Star Fox. Je n'ai pas trouvé d'autres noms.
Ah oui, non mais super
non, mais
surprise.
C'est Star Fox.
Tu veux dire alors, tous les mécaniques.
Oui. en fait, oui. Je te dirai pas ce que c'est le poulet. Mais non, c'est ça, c'est des petites missions shoot 'em up. Alors, autant sur le 2, les missions où on contrôlait les bêtes mécaniques étaient sympas, mais rapidement, c'était tout le temps les mêmes.
Ouais, et puis en plus, c'était un peu... Une fois que t'avais compris que t'appuyais sur R pour balancer la sauce, enfin voilà, quoi, tu t'avançais...
R, pour nettoyer les cartes.
Là, voilà.
Non, celle-là, c'est des shoot'em up sympas, alors...
Shoot'em up 3D.
Pour moi, c'est le... alors, 3D, mais avec différents défilements. Ça peut être vraiment façon Star Fox ou shoot'em up de côté.
C'est pour ça que je trouve que le meilleur analogie, c'est Star Fox 64, quoi. T'as un couloir, puis à un moment tu te mets à tourner autour d'un ennemi, puis à un moment t'as un autre couloir, ça ressemble à des missions de Star Fox, quoi.
Ça peut être aussi les missions Kid Icarus Surprising.
Oui, Nier Automata, enfin plein de...
Voilà, quoi.
Mais voilà, t'as
plein de choses comme ça, mais...
Un vrai shoot them up.
J'ai pas envie de dire comment ça vient, quoi, parce que là, ça m'a vraiment... coller le sourire sur la toute première mission où ça apparaît. Elles sont courtes. Sachez juste que généralement elles arrivent pas surprises à la fin d'une bataille scénarisée. Oui, ça rajoute ce petit côté tiens surprise, tu pensais avoir tombé le boss de fin et voir ta cinématique. Non, t'as encore ce petit truc à faire.
Voilà. C'est pour ça que c'est en général très court d'ailleurs, hein, je pense. C'est parce qu'effectivement c'est très souvent j'allais dire une queue de scénario, mais c'est...
Petite cacahuète de fin.
Voilà.
La cerise sur le gâteau.
C'est presque ça, c'est le petit sucre à la fin. Tu l'as bien mérité, allez vas-y, éclate-toi, fais péter des trucs. Et vraiment, ça fait la petite récompense. Ça marche bien d'ailleurs, hein, j'en ai refait quelques-unes là comme ça, juste pour rejouer la mission, et en fait, même en tant que shoot'em up, c'est assez compétent, je trouve. C'est pas toujours...
Oui, c'est du shoot'em up à... T'es pas dans le twist, non. Non, t'as deux boutons, quoi. T'as une attaque coup par coup, une attaque répétée, et puis tes petites bombes que tu vas pouvoir balancer. Et le barrel roll qui est très intéressant sur certains pseudo-boss.
C'est ça, parce que t'as des boss, en fait, enfin, tu peux leur renvoyer, en fait, leur projectile.
Leur bouboule.
Tu peux esquiver les bouboules, tu peux renvoyer des bouboules, ça reste extrêmement lisible. Vraiment, quand je dis que c'est... quoi. C'est peut-être le truc le plus proche de Star Fox qu'on ait eu depuis Star Fox Zero.
C'est peut-être leur, leur application pour faire un nouveau Star Fox.
Peut-être que c'est le test, peut-être que c'est ils essaient de le vendre à Nintendo en mode regardez, nous on sait faire. Ah, vous voulez pas qu'on fasse Star Fox hein,
on sait faire.
Ah, et les gens aiment en plus.
On n'a pas parlé jusque-là, mais techniquement tout ça est très très propre.
Alors oui, tout ça tourne à 60 images par seconde. Donc c'est du 1080p60.
Sur Switch 2 ?
Sur Switch 2.
Voilà, quand même.
Oui, oui.
Bah, ça tourne pas sur Switch 1, hein, mais oui, non, mais par rapport
à... Vu qu'il n'est pas sorti.
Par rapport à Hyrule Warriors qui galérait sa mère sur Wii U et à qui tournait à 30 images par seconde pas très très joli sur Switch, Hyrule Warriors 2 qui s'en sort un petit peu mieux mais tu sens que ça galère aussi, là c'est vraiment propre hein, ça tourne
d'ailleurs,
à 60 images par seconde nickel hein, ça tient la route.
D'ailleurs la caméra elle est moins aux fraises parce que combattre les Itorak c'était jamais fun hein.
Donc, je dirais globalement oui. Après, forcément, si tu te colles dans un angle de mur et que t'as une armée en face de toi, elle va se mettre là où elle veut, mais tu défonces les trois connards qui sont devant toi, tu te replaces et ça repart. Quoi.
Et les Little Rock
pas eu de soucis, perso.
La caméra monte un peu, tu sens qu'il y a eu un petit effort de fait pour que ce soit moins désagréable.
Ah, mais c'est
pas ouf. C'est clairement pas ouf. Est-ce qu'on fait un petit point histoire DA, histoire de terminer? Ouais, je pense qu'on va faire ça.
Alors, moi, c'était surtout sur le rythme que je trouvais beaucoup plus intéressant à suivre que ce qu'on avait pu avoir avant. Alors, c'est beaucoup plus... Alors, tout était scénarisé, mais plus, on va dire, cinématique. T'as vraiment cinématique, ta petite bataille qui peut être entrecoupée par une autre cinématique. Et tout ça est extrêmement bien doublé. C'est vraiment vraiment plaisant.
Ouais. Très avec le même cast d'ailleurs que Tears of the Kingdom. Donc on retrouve Mineru, on retrouve Raoru, on retrouve des voix qu'on connaît, avec lesquelles on est familier, ça fait très plaisir. Voilà, c'est...
On retrouve tous les souvenirs que vous aviez qu'on pouvait trouver dans Tears of the Kingdom, là font partie de la trame du jeu.
C'est ça, limite le truc comble les trous, quoi. On t'explique que, bah oui, à tel moment, c'était vraiment la merde. Ah bah oui, mais c'est le moment où on est arrivé là. Ok. Et t'as Zelda qui fait toujours la narration, qui fait toujours la narratrice, c'est-à-dire que souvent quand tu lances une mission...
Sur les panneaux de chargement.
C'est ça. Tu lances une mission scénarisée, t'as une espèce de résumé des épisodes précédents, où on dit, bon bah alors, là, Raoru, Mineru et le Goron, on a été cassé la gueule là, et puis en fait, les ennemis sont arrivés en masse, ils étaient encore plus nombreux que la dernière fois, à chaque fois, les ennemis sont encore plus nombreux. Ça marrant, les vagues d'ennemis, à chaque fois, tu te dis, bon bah, c'est 10 fois plus nombreux qu'avant, putain, il y a beaucoup quand même, hein.
Ah bah, la momie, elle met le paquet, hein.
Ah, c'est ça, non mais c'est vraiment, genre, il y en avait 10 fois plus qu'avant, puis là, il y en avait 10 fois plus qu'avant, puis là, il y en avait 10 fois plus, t'es là, genre, ok, très bien. On a compris, il y en avait beaucoup, et puis souvent t'as la petite cinématique d'intro de la bataille. Comme disait Mecton, la bataille avec parfois une petite cinématique au milieu aussi. T'as une cinématique de fin, enfin voilà, vraiment, ça se suit super bien, je trouve. Là-dessus, on est nickel. Et surtout, on voulait parler des personnages.
Oui, merci, je cherchais ce qu'on avait oublié.
Voilà. Ouais. C'est le dernier truc normalement qu'on a.
Donc oui, ils sont inédits. Alors ils représentent des races qu'on connaissait déjà. Mais voilà, ils ont leur petite histoire, leur caractère. On s'y attache assez vite. On s'intéresse à eux. Je trouve ça pas mal pour un Musso.
Oui, c'est vrai que c'est pas souvent. Alors on retrouve évidemment les... Donc si... Pour ceux qui ont fait Tears of the Kingdom, vous retrouvez Raoru, Sonia, Mineru, Zelda évidemment... les sages anciens de l'ancien temps, sauf que là ils
sont cette fois-ci nommés.
Cette fois-ci ils sont nommés. Évidemment, il y a un Piaf, un Zorin, un Goron, il en manque un Gerudo.
Oui, c'est ça.
Gerudo.
Voilà, donc tout le monde est là, j'ai envie de te dire. Mais voilà, je trouve ça assez couillu en fait de se dire, il y a très 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 peu de fanservice. Il y a juste deux personnages inédits un peu rigolos, un couple de personnages inédits un peu rigolos, qu'on croise très vite dans le jeu, je vous rassure, ce n'est pas un spoil, c'est le golem, qui ressemble du coup très fortement à Link.
Ah bah tu le croises dans l'intro, oui c'est ça que j'avais oublié, je reviendrai dessus après.
Donc le golem,
Et donc le Korogu.
Et le Korogu, il est extrêmement drôle. On a une dynamique assez marrante entre les deux. Parce que le golem est muet, le Korogu passe son temps à piailler. Et, et il dit que des conneries, quoi.
Et le Korogu, c'est vraiment un Korogu. Hein. C'est pas...
Ah, c'est un Korogu, oui. Ah,
c'est pas... Oui, c'est pas la grosse branche qui était Noya. Hein.
Non, 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 c'est vraiment un petit Korogu avec sa petite fourchette, là.
D'ailleurs, le golem qui ressemble à Link, il reprend la mécanique de Link qui pouvait prendre une épée à une main, une épée à deux mains ou une lance.
C'est celui qui est le plus personnalisable.
C'est ça. Et qui est en plus les personnages les plus pétés. Hein.
Évidemment.
La dynamique entre les deux marche super bien et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dans le scénario avec cette espèce de double histoire. Qui va finir par se recroiser, mais c'est comme dans ces films, on suit les aventures d'une équipe, les aventures d'une autre, et quand une autre arrive sur un endroit, il dit tiens, il s'est passé ça, ça doit être l'autre team, vivement qu'on les rejoigne. C'est plutôt chouette.
C'est un peu l'Empire contre-attaque finalement. Tu suis en parallèle.
Voilà, merci.
Tu suis en parallèle deux aventures jusqu'au moment où effectivement tout le monde se recroise pour la bataille finale, pour aller casser la gueule, péter des culs, ce qui est normal, hein, à un moment il faut que tout le monde se rejoigne.
Dans l'Empire contre-attaque, ils se font péter la gueule.
Oui, dans l'Empire contre-attaque, ils se rejoignent pas, c'est la limite du raisonnement. Mais non, mais c'était juste pour illustrer, t'as vraiment deux histoires parallèles. Donc au départ, t'as Zelda d'un côté, qui effectivement combat les forces du mal, et t'as le golem qui est un personnage un peu mystérieux, il parle pas, on sait pas d'où il vient, on sait pas quelles sont ses motivations, et qui embarque le Korogu, qui, lui, sa seule motivation, c'est de trouver une lance suffisamment dure pour pouvoir se planter dans un coin et faire une forêt, quoi. Je trouve très drôle.
Oui.
Voilà, et
au début,
fait,
il devient rapidement touchant, même.
Il devient rapidement touchant, et en plus, il y a un côté... il a un côté héros malgré lui qui est assez rigolo. Je trouve qu'il est assez bien écrit comme perso. Au départ, tu dis ça va être agaçant, mais en fait, non, pas du tout. Il est vraiment... très
ça marche
écrit.
Bien, puis il a un peu le rôle du candide qui t'embarque, toi joueur, c'est genre ah putain, tu savais faire ça, toi joueur, tu c'est le ça. Découvres en même temps, quoi.
Et puis ce qu'on disait un peu en off, il y a un peu le côté c'est mes enfants qui m'ont fait remarquer, Penn and Teller, quoi, c'est à dire qu'il y en a un qui parle tout le temps et l'autre qui parle jamais, ce qui fait que quand il y en a un qui se tait, le Korogu en l'occurrence, en général c'est entre guillemets grave, c'est qu'il se passe un truc.
Un moment grave, ouais.
C'est ça, c'est un truc assez marquant. Il ferme sa gueule, donc il se passe un truc. Et alors, je crois pas que le golem parle, du tout.
Mais non.
Il a de temps en temps une réaction, un truc comme ça, qui fait que tout d'un coup, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe?
Voilà, il va avoir des expressions ou des gestes, en fait.
C'est ça. Et donc,
d'ailleurs, je remarque qu'il
c'est d'autant plus marquant.
Il a beaucoup le regard mobile.
Oui.
Tout le monde a un regard un petit peu fixe, c'est pour... pour faciliter les quand on lit l'expression d'un personnage, mais lui en l'occurrence il a vraiment le regard mobile, très intéressant.
Ouais, je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas encore fini le jeu, je crois que Mecton non plus.
Alors pas fini non, mais je me suis fait spoiler un truc, éviter parce que le raccord entre les deux jeux est beau.
Ah, donc ça fait plaisir, on va quand même se le dire, ça fait plaisir. Bref, eh ben je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là on est pas mal déjà. Bon, voilà. Alors,
je peux juste
oui,
mentionner que du coup on a trois ritos, les Piaf, pardon, qui ont tous l'archétype du fier guerrier, mais j'apprécie qu'ils sont tous les trois écrits de manière complètement différente. On a le crâneur, on a le chef de tribu, et on a du coup, j'ai oublié son nom, le dernier là, qui
le
gardien. A aussi pardon.
Le gardien, non.
Non. Le sage. Oui. Ils sont tous les trois écrits différemment. Et moi, j'apprécie que il y a bien des stéréotypes dans les races, mais ces stéréotypes se montrent de manière différente. Je trouve que c'est une très belle manière d'écrire les choses.
Mais de manière générale, on se disait, les persos sont pas clichés, c'est plutôt bien vu. Encore une fois, ça reste un Musso. Hein. On sait pas quelque chose qu'on attend d'un Musso, et ça reste très chouette.
Pour le coup, voilà, je suis très surpris, c'est pour ça que j'avais insisté pour en parler, l'écriture m'a surpris, c'est pas un truc de bourrin.
Et ça, c'est pas un
l'écriture,
truc
le gameplay, c'est...
Bon, le gameplay, ça,
le gameplay, c'est bourrinville, hein.
C'est, oui, bon, alors, en même temps, t'es là pour ça, quoi. Mais je suis d'accord, en fait, la partie histoire est bien plus subtile que ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans les Musso de manière générale, et dans les Musso Zelda en particulier, où c'est quand même beaucoup de fanservice, on va quand même se le dire.
C'est, surtout voilà. Le premier où t'as Volcagia. Pardon, je sais plus que.
Volcania.
Volcania, bref, Volcania, beau gosse, chevalier dragon.
Oui, non, mais t'avais des trucs, c'était n'importe quoi. T'avais Malon, Talon et Malon, enfin bon, bref, c'était. C'est...
Non, non. C'était. Non, là, ça reste. Les mecs que t'envoies au carton, ils. Un minimum guerrier, quoi. Ils ont quelque chose à y faire.
Ils ont quelque chose à y faire, mais voilà, encore une fois, plutôt une bonne pioche. Alors, encore une fois, faut apprécier les musos. Hein. Du coup, si on n'aime pas ça, le faire juste pour l'histoire, ça fait peut-être un peu cher. Je comprends qu'on soit un peu réticent, mais pour moi, quand on est vraiment fan de Tears of the Kingdom, et qu'on, si on aime un tout petit peu les musos, et que vous en avez jamais fait avant, ça vaut vraiment le coup de démarrer avec. C'est vraiment un bon jeu, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà.
Est-ce surtout que ça fait partie des meilleurs musos.
Je sais pas, le Fire Emblem Warriors était très bien aussi, hein, donc ça s'adaptait assez bien.
J'ai pas joué au Fire Emblem Warriors, donc...
Voilà. C'est, ça fait partie des... De toute façon, ça fait partie maintenant un peu du paysage. On est au troisième jeu. Moi, je trouve que ça marche toujours bien. C'est pareil, comme disait Antix, hein, tous les 2-3 ans, tu fais un mousseau, bah c'est bien. Tu vas le reposer sur l'étagère, t'y toucheras plus pendant 2-3 ans, et c'est pas grave.
Oh, tu vas te faire le suivant
Tu feras le suivant dans 2-3 ans, voilà.
Voilà, ou alors tu vas te dire « Oh, j'ai un petit peu envie de m'en refaire un » et tu vas y rejouer pendant 15 minutes.
Tu vas te refaire une mission, puis ensuite tu vas éteindre et tu auras eu ta dose, et puis c'était bien.
Voilà.
Mais c'est vrai que pour le coup, je trouvais que Age of Calamity, le premier sur Switch, le deuxième sur Switch, pardon, et avait quand même réussi à trouver un équilibre un peu intéressant entre le bourrinage d'un mousseau classique et une formule un peu plus narrée, un peu plus abordable aussi, parce que par Hero Wars le premier, la carte du mode aventure c'était beaucoup trop, quoi.
Ouais, c'était vraiment compliqué, alors que là effectivement c'est beaucoup plus manageable. Bref. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là. Je pense qu'on va se retrouver, quoi qu'il arrive, dans 2 semaines, la semaine prochaine en podcast. Hey, vous avez vu, la dernière fois, il était pas en retard.
Ouais,
GG.
Mais il y avait un jour férié, hein, voilà.
GG quand même.
Ah, c'est quand le prochain jour férié déjà?
Noël, je crois.
Oui.
Bref. Donc, quoi qu'il arrive, on se retrouve tout début décembre. Je pense qu'on parlera de Kirby Air Riders. Peut-être qu'on parlera aussi de Kirby Air Ride, parce que finalement, ça pourrait faire une petite rétrospective un peu rigolote. D'essayer de voir un petit peu à 20 ans d'écart les deux jeux, ça pourrait être un truc assez fun. Bref, en attendant, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.
Ciao, ciao. Bye. Bye.